Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Elisabeth Antebi.
Un livre d'académicien, Jean Dutour, Les perles et les cochons, chez Fayard. Les perles et les cochons sont le livre d'un survivant, puisque l'an dernier, Jean Dutour avait publié le journal intime du mort. Jean Dutour a l'habitude. Il a survécu à la guerre, à la résistance, à la captivité, à la libération de Paris à laquelle il a participé, et à toutes les attaques possibles de la sottise humaine. Ce livre est une gourmandise. Ce petit pousset-là sème les perles et cochon qui s'en dédie. Quant aux cochonnes, Jean Dutour ne déroge pas à sa réputation de misogyne, puisqu'il n'en parle pas. Sans doute se rêverait-il volontiers en Circé, qui transformait les hommes en cochons. Alors qu'est-ce que c'est que ce livre ? C'est un livre assez atypique parce que, s'inspirant d'Ésope et de La Fontaine, Jean Dutour écrit des fables, en plus pessimistes et en plus noirs, dit-il. Il écrit « Ésope était esclave et La Fontaine anarchiste ». Cela signifie qu'ils regardent tous deux le monde par en bas. Est-ce que ça veut dire que Dutour le voit de haut ? En tous les cas, le ton est donné et le présent choisi, c'est-à-dire qu'il ne dit pas cela signifiait qu'il regardait. Dutour vit au milieu, à l'époque où vivent Ésope et La Fontaine, et nous aussi. Mais Dutour se veut plus noir que ceux qu'il a choisis pour contemporains. Avec l'esprit de contradiction qu'on lui connaît, pour nos délices d'ailleurs, il réécrit les fables. Juliette, par exemple, s'étend sous le chêne pour flirter avec son Roméo et casse le roseau, malpensant. Monsieur de la Souricière, coureur de dot et Landru avant la lettre, trouve plus fort que lui avec un Madame de la Souricière dont pour son 6e mariage il tombe pour son malheur amoureux alors qu'il a expédié toutes les femmes des précédents mariages pour avoir leur fortune. Et c'est elle qui aura sa peau en le dénonçant à la police et en trouvera les ossements. Et elle vivra jusqu'à 80 ans ou plus en racontant à ses petits-enfants la fable d'un vilain gentilhomme à la barbe toute bleue. C'est comme ça que naissent les histoires. Ou encore, je vous recommande la petite nouvelle intitulée « Il est une variété d'ânes appelées bibliophores ». Les bibliophores, les ânes qui portent les livres au lieu de les lire. Et alors, plus ils portent évidemment de livres, plus ils sont savants. Ils peuvent être licenciés à une centaine de livres et docteurs à des milliers de livres. Et l'un d'entre eux, qui ne sait pas lire évidemment comme tous les ânes, rencontre un singe plein d'esprit qui lui dit s'appeler François Arouet, nous reconnaissons bien sûr Voltaire, et il lui dit qu'il n'a pas de temps à perdre avec un pseudo-écrivain, lui, qui porte tous les livres de tous ces gens-là, et l'âne détale pour aller à une manif. Alors, dans les fables aussi, le lion tue le rat, évidemment, qui l'a sauvé. Le lion reste un vilain lion. La cigale renfloue la fourmi. C'est la cigale qui a de l'argent. Elle en a gagné en dansant. Et il y a une variante où la cigale, qui est beaucoup plus grosse que la fourmi, comme chacun sait, menace de lui casser les reins. Bref, elle lui fait du racket et la fourmi lui donne de l'argent en lui disant que surtout elle se taise. Voilà. Alors, je vous laisse découvrir les autres fables. On rit beaucoup. On se sent cultivé et intelligent, et bénis soient les écrivains qui nous rendent intelligents. Je vous recommande alors certains, évidemment, « Manger pour vivre », par exemple, qui est l'histoire de deux hérons dont le cou n'était pas si long qu'on veut bien le dire, et qui aurait pu s'intituler « La limace et le principe de précaution ». Bon, ça c'est... Mais il faut le lire, il faut le lire. Ou celui qui s'appelle « Pierre qui roule ». Et Pierre qui roule, le héros de ce Pierre qui roule est un Sisyphe. Vous savez, celui qui était condamné par les dieux à porter son rocher en haut de la montagne, à le faire rouler sans cesse et à le rerouler souvent, jusqu'à l'éternité des temps d'ailleurs. Sisyphe, tout d'un coup, se prend d'amitié pour son rocher. Et alors, le rocher, alors c'est une des plus jolies histoires parce que au fond, le rocher, à ce moment-là, un homme, voilà, je vous lis un peu de ce du tour parce qu'on ne peut pas parler d'un écrivain sans le lire. Un homme ne saurait être l'ami d'un rocher. Un homme ne saurait aimer son malheur. Pourtant, il faut se rendre à l'évidence, Sisyphe aime son rocher. Quand les métamorphoses ont tant fait que de commencer, elles se développent avec une rapidité confondante. Le rocher, qui était cylindrique, s'aplatit et se creusa en divers endroits. Des morceaux se détachèrent. Soudain, Sisyphe vit à ses pieds une véritable forme humaine, dotée d'une tête, de bras, de jambes, assez mal équarries à la vérité, et plus semblable à une statue primitive qu'à un homme. On croirait du Cocteau presque. Mais cette statue parla, et à mesure qu'elle parlait, ses traits s'affermissaient. Ses membres se couvraient de muscles et de veines, comme une sculpture de Michel-Ange ou de Rodin. « Pauvre vieux Sisyphe, dit le rocher, je comprends que tu en aies ta claque. Mais que veux-tu? Les choses sont ce qu'elles sont. Tu as très bien fait de me parler gentiment. Quand on est affligé comme toi d'un rocher, la seule façon de le supporter est de se lier d'amitié avec lui. Tu as mis du temps à le deviner, mais cela a quand même fini par venir. » Bon, alors donc, le rocher allège la tâche puisqu'il arrive à marcher et que, bon, bah, Sisyphe le pousse un peu moins. Et Sisyphe en arrive à mettre les mains dans ses poches et regarder le paysage. « Quelle aventure, dit Sisyphe, crois-tu que mes malheurs sont terminés ?»« Te fais pas d'illusions, dit le rocher. J'ai beaucoup changé ces derniers temps, mais je suis toujours un rocher. »« Moi, dit Sisyphe, je crois que je ne suis plus Sisyphe. Veux-tu mon avis ?»« Il y a sûrement du symbole dans notre histoire. » « Sûrement, dit le rocher, car enfin on n'a jamais vu un rocher qui parle et qui marche. » Un instant, dit Sisyphe, qui, ayant du répit pour réfléchir, en profitait. Un instant, tous les rochers parlent et marchent. C'est même leur principale caractéristique. Tu le sais très bien. « Non, dit le rocher, c'est toi qui le sais. » Voilà. Donc, l'apothéose, je voulais garder quand même pour la bonne bouche, c'est quelque chose qui s'appelle le crépuscule des loups. Et qui commence comme cela. Un loup se désaltérait dans le courant du nom de Pure. C'était un vieux loup au poil blanc qui avait accompli jadis maintes actions glorieuses. L'âge l'avait un peu fatigué, un peu alourdi, mais il était encore fort beau, avec un air de noblesse, des yeux pensifs et toutes ses dents. Un agneau survint. Il était tout noir, étant fils de mouton et de brebis noires. Il faisait partie de l'Association révolutionnaire des moutons, ARM, de la Ligue des droits de l'ovin, LDO, et du Parti du mouton unifié, PMU. Alors, le mouton voit le loup qui boit son eau. « Qui vous a permis de boire cette eau ? » dit-il au vieux loup. « Tiens, un mouton noir, dit le loup prudemment. » Il ne voulait à aucun prix créer d'incident. « Vous pourriez dire un mouton de couleur, espèce de mufle, rugit l'agneau. » « Je vous demande pardon, dit le loup, je ne suis plus de la première jeunesse. J'emploie les vieilles manières de parler. » « Cette rivière appartient aux moutons, dit l'agneau. Vous n'avez absolument pas le droit de venir la troubler avec votre sale gueule de vieux loup, etc., etc. » Et à présent, poursuit l'agneau, cette rivière a été nationalisée par le glorieux peuple des moutons qui s'est libéré de l'esclavagisme et qui marche avec confiance vers des lendemains qui bêlent. Voilà, sic transit gloria mundi, et ainsi parle du tour qui raconte ses fables.